Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Trendstalk. Cette semaine, nous allons essayer de sortir un peu de la morosité ambiante avec une très bonne nouvelle économique, un investissement industriel d'1 milliard d'euros en Wallonie. Cet investissement, on le doit à l'entreprise UCB qui annonce donc un investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans sur son campus de Braine-l'Alleud. Et pour parler de ça, nous avons invité le responsable de ce campus, M. Geoffrey Folly. Bonjour M. Folly.
Bonjour.
Alors, cet investissement de ce milliard d'euros, à quoi allez-vous l'utiliser concrètement? Est-ce qu'il y a des nouvelles usines qui vont sortir de terre à Braine?
Alors tout d'abord, ce milliard d'euros va être consacré à la construction de deux nouveaux bâtiments. Le premier bâtiment est un bâtiment de production industrielle qui va servir à la production d'une nouvelle molécule biotechnologique du CB, le bimekizumab, qui est le principe actif de notre nouveau médicament contre le psoriasis, le Bimzelx. Le deuxième gros investissement consiste en le démarrage quelque part d'une nouvelle plateforme technologique que nous allons implémenter chez UCB et sur le site de Braine-l'Alleud pour le développement et la production clinique de produits basés sur la thérapie génique. Ces deux investissements cumulés comptent pour à peu près 500 millions d'euros dans le milliard dont on a parlé.
Et ils s'étalent sur quelle durée
Alors ces deux projets sont déjà en cours d'exécution. Voilà. Donc là, on a un horizon, je dirais, de 3-4 ans pour la finalisation de ces gros investissements, la clôture des comptes, je dirais. Mais au-delà de ça, ce milliard va servir à transformer le site de Braine-l'Alleud, ce qu'on appelait le site de Braine-l'Alleud, en un campus qui se veut résolument high-tech, tourné vers l'avenir, ouvert à des collaborations extérieures. Également une vocation très, très green à ce site et à un site qui va également promouvoir la convivialité et les échanges inter-équipes.
Nous viendrons plus tard sur ce campus, parce que pour y avoir déjà été, je peux confirmer que ça donne une impression de campus universitaire américain, c'est ça. Mais peut-être revenons sur les nouvelles unités. Donc, UCB a été connu comme producteur de molécules chimiques, les médicaments, les comprimés, comprenez. Maintenant, il y a d'autres technologies qui apparaissent, la biotechnologie, les thérapies géniques. Est-ce que ça signifie que les molécules chimiques, c'est du passé ou bien c'est trois technologies que vous comptez mener de front?
Alors, c'est vrai qu'historiquement, UCB est connu pour les molécules issues de la synthèse chimique. Donc, nous sommes mondialement réputés et leader mondial d'ailleurs dans le domaine de l'épilepsie. Et ce sont effectivement des molécules issues de la synthèse chimique et qui sont essentiellement transformées en comprimés. En 2004, avec le rachat de la société Celltech, UCB s'est lancé dans la biotechnologie. Nous avons maintenant dans notre portefeuille un certain nombre de molécules biologiques qui sont formulées sous forme de produits injectables. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, UCB peut se prétendre un groupe biopharmaceutique. La gene thérapie, c'est quelque part une plateforme complémentaire que nous ajoutons au portefeuille d'UCB et qui est essentielle pour le développement d'UCB à plus long terme. Donc on regarde là à un horizon qui se chiffre en décennies.
Il y a des passerelles entre ces technologies ou bien c'est des domaines vraiment séparés?
Alors on peut dire que entre les petites molécules et les grandes molécules, donc les molécules biotechnologiques, il y a relativement peu de points communs, en tout cas au niveau de la fabrication de la molécule. Par contre, leur formulation, leur packaging sont des opérations qui sont relativement semblables et où on peut avoir des effets d'échelle. Entre la production biotechnologique et la gene thérapie, d'un point de vue technologique, il y a quand même pas mal de similitudes. Oui. Donc là, les deux domaines sont plus proches l'un de l'autre et c'est d'ailleurs notre équipe de développement biotechnologique qui est en charge du lancement de l'unité gene therapy, en tout cas pour le développement du process.
UCB est un groupe belge, mais vous êtes présent dans le monde entier avec des usines, je ne sais pas, dans 40-50 pays.
Pas vraiment des usines. Nous sommes implantés au travers de filiales, de sites administratifs dans un grand nombre de pays. Par contre, au niveau industriel, au niveau usine, nous avons en fait 4 usines à travers le monde. Braine et Bulle en Suisse, qui sont des usines à vocation internationale et qui servent tous les marchés, y compris les États-Unis, le Japon, etc., etc. Et on a 2 plus petites usines sur le continent asiatique, l'une en Chine et l'autre au Japon, qui sont essentiellement des sites de packaging, même si on essaie d'y implanter des opérations galéniques, donc la fabrication de comprimés, et qui servent les marchés locaux.
Oui. Donc le fait de développer la thérapie génique à Braine plutôt qu'ailleurs, ce n'est pas spécialement lié à l'écosystème qui émerge bien en Belgique et singulièrement à Wallonie, à Gosselies, en thérapie génique et cellulaire, où il y a plusieurs entreprises, il y a un savoir-faire qui se développe. Est-ce que ça a compté dans votre choix d'investissement et puis de localisation d'investissement?
Chaque fois qu'UCB procède à un investissement de cette importance, on se pose évidemment la question de la localisation. La première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut développer un projet comme celui-là en interne ou est-ce qu'on veut recourir à la sous-traitance? Dès l'instant où on décide d'exécuter le projet en interne, évidemment, on se pose les questions de la localisation sur des sites existants ou éventuellement la construction d'un autre site. Donc tout ce processus a été mené à bien pour le projet Gene Therapy. Et effectivement, dans les critères de choix, la disponibilité de la compétence, la disponibilité d'un écosystème qui favorise une telle activité, le soutien des pouvoirs locaux, régionaux, nationaux, etc., sont évidemment des facteurs qui sont pris en considération. Et donc, au bout de toute cette équation, on a choisi le site de Braine pour mener à bien ce projet.
Ce qu'on n'a pas encore dit, enfin ce que vous n'avez pas encore dit, c'est combien d'emplois seront créés dans ces deux unités?
Alors, pour l'usine biotechnologique, on compte à peu près 150 créations d'emplois. Pour le projet Gene Therapy, on compte à peu près une centaine d'emplois. Donc, ces deux projets, à eux seuls, et à un horizon, je dirais, de 5 ans, devraient pouvoir promouvoir 250 postes supplémentaires sur le site de Braine.
Et vous savez bien que c'est un défi pour l'instant en Belgique, pour des entreprises et singulièrement dans le secteur pharmaceutique, c'est de trouver les profils, les talents suffisants. Est-ce qu'il y a quelles mesures vont être prises pour essayer d'attirer 250 personnes
alors? Alors effectivement, le recrutement dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique est un vrai challenge. Essentia, notre fédération patronale, estime que dans les années qui viennent, ce secteur industriel ouvrira à peu près 800 postes chaque année. Toutes les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, et je parle là uniquement de la Wallonie, et toutes les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, petites ou grandes, pêchent en fait dans le même étang, et cet étang, il est aujourd'hui trop petit. Il y a une prise de conscience, évidemment auprès des acteurs industriels, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Et donc, il y a pas mal d'instruments qui sont mis en place aujourd'hui pour essayer de pallier quelque part à cette situation, et ce, avec un certain sens de l'urgence.
Par exemple
Je parle, sous l'égide de la région Wallonne, et en particulier de BioWin, de la mise en place de la EU Biotech School à l'aéropole de Gosselies. Je pense aussi à l'initiative Talent Now. Je pense aussi au développement d'AptaSkills, qui est un organisme qui organise des formations à destination de l'industrie chimique, pharmaceutique et biotechnologique. Donc tous ces instruments-là sont maintenant mis à notre disposition pour faciliter le recrutement, mais aussi faciliter la reconversion de talents qui sont déjà présents dans nos entreprises, mais qui veulent acquérir de nouvelles compétences, voire même changer de métier.
Vous avez évoqué tout à l'heure donc le campus de Braine-l'Alleud. Est-ce que d'avoir ce campus plutôt qu'un bâtiment sur un zoning, est-ce que c'est un élément d'attractivité pour recruter ?
En tout cas, c'est comme ça que nous le considérons. Hein. Donc, nous voulons implémenter cet esprit campus. Donc, ce n'est pas seulement de l'infrastructure, c'est vraiment tout un esprit qu'on veut essayer de décliner sur le campus de Braine, favorisant la collaboration entre les individus et les équipes. Un espace où il fait bon vivre. On parle beaucoup de well-being dans les entreprises. Clairement, cette notion de campus va favoriser le well-being. Et nous considérons réellement que délivrer cet esprit campus au-delà de l'infrastructure sera un atout non seulement pour attirer des talents, mais aussi pour retenir les talents. Parce qu'on parlait de compétition tout à l'heure entre entreprises. Les temps dont on parlait tout à l'heure, il est pas fermé. Il y a quelque part une espèce de compétition, assez féroce d'ailleurs, entre les entreprises pour la recherche des talents.
Et qu'est-ce que vous êtes dans cet esprit campus, c'est quoi par exemple Est-ce que c'est, enfin, j'imagine que c'est autre chose qu'installer deux kickers dans une salle, quoi.
Non, bah, bien que ça en fasse partie, c'est l'implémentation vraiment d'un espace de travail, en particulier dans les zones administratives où on se sent un peu comme à la maison. Donc, je dirais que l'infrastructure, la manière, l'arrangement des locaux, l'arrangement des postes de travail, la flexibilité aussi qui est donnée aux travailleurs est assez intéressante. On a aussi le déploiement du modèle hybride chez UCB, c'est-à-dire que pour les postes qui conviennent, c'est pas évidemment possible pour toutes les fonctions, mais on autorise quelque part les travailleurs à partager leur temps entre leur domicile et le site. Oui. Ça aussi, c'est un facteur d'attractivité. Vous allez me dire que c'est présent dans beaucoup d'entreprises, c'est vrai, mais on veut vraiment en faire un fer de lance chez UCB également.
Le revers de la médaille, c'est peut-être le déplacement. Il faut rejoindre ce site. On sort de la semaine de la mobilité. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont entreprises chez UCB pour faciliter l'acheminement des personnes jusque Braine-l'Alleud ?
Alors, c'est un défi hein, pour le campus de Braine. Disons que son positionnement géographique est telle que le campus n'est pas très très bien desservi par les transports en commun. Donc c'était un peu le tout à la voiture. Mmh. Et au jour d'aujourd'hui, et avec la politique green du CB, on veut vraiment développer des options alternatives. Alors on a une cellule mobilité qui travaille depuis quelques mois maintenant sur différents axes et on a décidé, en tout cas pour les premières années, de se focaliser sur trois axes principaux. Le premier, c'est la mise en place d'un shuttle, d'une navette, entre la gare de Braine-l'Alleud et notre campus. Aujourd'hui, cette navette tourne avec un certain succès. Et essentiellement aux heures de pointe. Et on est en train d'investiguer la possibilité d'étendre les plages horaires, voire même d'identifier d'autres hubs ailleurs que la gare de Braine-l'Alleud où des travailleurs pourraient venir se concentrer et bénéficier d'une telle navette.
C'est un vrai défi pour un responsable d'un site comme vous, M. Folly, de veiller à ce que les collaborateurs puissent facilement venir en transport en commun ou en covoiturage.
Oui, c'est un défi parce qu'on est évidemment souvent interpellé au jour d'aujourd'hui par les coûts du commuting, comme on dit. C'est un gros site, il y a beaucoup de monde. Hein, on parle de 2500 personnes qui sont attachées au site quelque part. Et qui est donc en croissance, nombre qui est donc en croissance. Ouais. Et donc tout est à l'avenant. Le dimensionnement de la cafétéria, le dimensionnement des parkings, etc. Et donc on préfère consacrer notre budget à construire des installations de développement qui vont permettre à terme de servir nos patients plutôt qu'à développer des parkings. Donc oui, la navette, c'est une approche. On essaye aussi de favoriser tout ce qui est accès au site pour les cyclistes. Donc on discute et on discutera encore avec les autorités communales et régionales pour sécuriser les voies d'accès. On veut aménager notre infrastructure de manière à pouvoir mieux accueillir les cyclistes, hein, donc des parkings avec des postes de chargement pour les batteries de vélos, des vestiaires, des douches à l'usage des cyclistes. On veut promouvoir aussi le covoiturage par la mise à disposition d'une application conviviale et par une communication efficace à ce sujet. Donc ça, ce sont en fait les trois axes sur lesquels on travaille en termes de mobilité.
– Revenons à l'unité de biotechnologie qui donc va, où on va produire un nouveau traitement contre le psoriasis. Une des caractéristiques, c'est que c'est issu d'une innovation, d'une découverte du centre de recherche à Braine-l'Alleud, hein, UCB. On me disait, je crois que Jean-Christophe Tellier, le CIO, disait dans une interview précédente, consacre un quart de son chiffre d'affaires à la R&D.
Ouais.
Et est-ce que dans vos programmes d'investissement, il y a une partie, hein, on avait parlé de 500 millions pour les deux bâtiments, est-ce que dans le solde, est-ce qu'il y a des montants qui vont servir à étoffer cette recherche sur le site de Braine-l'Alleud qui amène des résultats manifestement ?–
Oui, tout à fait. Donc on s'est peut-être focalisé sur les deux investissements majeurs. Mais la deuxième moitié du milliard est consacrée à développer toute une série de projets. Et effectivement, il y a un projet assez ambitieux, ou je dirais même un programme assez ambitieux de développement de l'infrastructure et des équipements et des équipes de recherche sur le campus de Braine.
Parce que là, c'est encore un autre défi pour, notamment en recrutement, parce qu'il faut des compétences, on monte en gamme, j'imagine, pour pouvoir découvrir des médicaments qui potentiellement peuvent être vendus par centaines de millions dans le monde.
Oui, effectivement. Donc, quand on parlait de recrutement tout à l'heure, il y a vraiment deux types de recrutement auxquels il faut penser dans notre environnement. Tout d'abord, on cherche des profils très très pointu en termes de compétences, et ce type de profil on ne les trouve en fait qu'en considérant un marché international. Alors certes de temps en temps on aura l'occasion de recruter des Belges, mais on doit vraiment ouvrir ces postes à l'international, et c'est un défi effectivement. Par contre, on a des postes d'opérateurs de production, de techniciens de laboratoire, qui par définition sont un petit peu plus locaux et qui ne sont pas nécessairement plus faciles à recruter. Hein. C'est là qu'on fait quelque part appel au partenariat avec la région wallonne.
Alors une grande entreprise, c'est combien d'emplois sur le site maintenant ?
Alors aujourd'hui, pour être précis, nous sommes à peu près 2100 personnes avec contrat UCB attachées au site de Braine. Et je dis bien attachées au site de Braine parce que tout le monde n'est pas présent sur le site vu la mise en place du modèle hybride. Et il faut compter à peu près 500 personnes qui sont sous contrat de contractants, en fait, et qui viennent supplémenter nos équipes. Et je ne parle pas des intérimaires, on a à peu près 150 intérimaires sur le site
C'était
au quotidien.
– La question que je voulais dire, c'est une grande entreprise, c'est son personnel, mais c'est aussi des sous-traitants pour des métiers divers, et donc je voulais voir quelle était un peu l'implication du CB dans le réseau entrepreneurial Brabant-Wallon, mais sans doute même bien au-delà.
Ouais, je pense que notre rayonnement va au-delà du Brabant-Wallon, même si notre ancrage est fondamentalement en Brabant-Wallon. Et oui, nous participons activement à BioWin. Je parlais de. On a parlé d'Essentia.
Impliqué dans des programmes de recherche des pôles de compétitivité où il y a il y a des centres de recherche, plusieurs entreprises. Vous êtes intégré dans ce tissu-là ?
Je discutais avec un collègue de recherche hier qui me disait qu'il y avait 200 projets de collaboration en recherche, et donc une bonne partie sont vraiment ancrés à Braine. Donc ça vous donne une idée de notre implication. Alors à nouveau, on est dans un rayonnement international. Hein. Donc effectivement, il y a des collaborations avec des universités belges, mais ça va bien au-delà. Donc des collaborations avec des universités britanniques, américaines, etc.
– Ça fait partie du rôle d'une grande entreprise de collaborer, de rayonner sur tout un tissu ?–
Je pense que oui, hein, on a vraiment un rôle sociétal quelque part, et au-delà du rôle, je pense que c'est une nécessité, parce que énormément d'innovations sont faites au travers de ces partenariats. Nous ne prétendons pas avoir toutes les compétences, et là où on pense devoir aller chercher une compétence à l'extérieur, on ne s'en prive pas.
Vous travaillez avec des PME wallonnes, même dans des domaines spécifiques, techniques, je veux dire, qui sont complémentaires à vos compétences scientifiques, pharmaceutiques.
Oui, tout à fait, et technique également. Hein. Donc, mon background est plutôt un background de production, et effectivement, on a développé en termes d'équipement de production, de services techniques, de services de maintenance, etc., des partenariats assez privilégiés avec une série de sociétés locales également.
Et ce qu'on appelle l'écosystème pharmaceutique ou biotechnologique en Wallonie et en Belgique d'ailleurs. Est-ce que vous le voyez vraiment grandir ou parfois on se gargarise peut-être un peu trop ?
Non, je pense qu'on le voit grandir au quotidien, on le voit grandir chez nous. Hein. UCB, c'est une croissance, UCB Braine-l'Alleud, c'est une croissance d'à peu près 100 postes par an sur les 5 dernières années. On a parlé du futur avec ces 250 postes supplémentaires qui vont être créés. Donc, on le voit à notre échelle et on voit aussi ce qui se passe dans les plus petites biotech, chez GSK, chez Takeda. Il y a vraiment une émulation et une croissance de cette activité, avec comme corollaire cette compétition au niveau de la chasse au talent.
Ce sont tantôt des confrères, tantôt des concurrents.
Voilà, effectivement.
Alors dans ces entretiens, on parle du sujet phare, mais on demande aussi à notre invité d'aborder deux autres thèmes. Hein. Et le premier, c'est une information économique en dehors de la stratégie d'investissement du CB, mais qui vous a marqué ces derniers jours, laquelle ?
Alors, je dois avouer que je rentre de vacances, et donc j'en ai profité pour bien déconnecter, et je n'ai pas vraiment suivi l'actualité économique ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Mais malgré tout, je pense qu'on ne peut pas ignorer, même si c'est peut-être un sujet un peu bateau, l'évolution des coûts de l'énergie et l'impact que ça a sur chacun d'entre nous, sur les ménages, sur nos employés chez UCB, et très certainement, en tant qu'entreprise, l'impact que ça a sur nos activités également. Je pense qu'il est quand même intéressant de mentionner que UCB, depuis quelques années, a une politique green, une politique verte qui est assez agressive, assez ambitieuse.
Agressive.
Agressive au sens, dans le bon sens du terme. Et nous visons par exemple la neutralité carbone à l'horizon de 2030. Et donc il y a une série d'initiatives qui ont déjà été exécutées, voire qui sont en cours et qui nous permettent de délester une partie de notre consommation énergétique.
Par exemple, vous pouvez citer quelques exemples de ces initiatives prises ?
En termes de délestage, ce sont vraiment une approche qu'on appliquera si on est vraiment contraint. Par contre, en termes de réduction de consommation, il y a déjà effectivement pas mal de choses qui sont en cours. Je vais donner un exemple. L'industrie pharmaceutique est un grand consommateur d'air conditionné, parce que les zones à atmosphère contrôlée nécessitent ce genre de technologie. Eh bien, nous avons implémenté dans nos zones de production, par exemple, un régime de nuit, ce que nous ne faisions pas avant, un régime de week-end, ce que nous ne faisions pas avant, de manière à drastiquement diminuer notre consommation énergétique. On a également, pendant les périodes Covid, on a regroupé les personnes qui étaient sur site dans certains bâtiments, de manière à pouvoir couper le courant, je dirais, sur certains bâtiments de manière à réduire la facture. Et ce sont des choses qu'on s'apprête à faire à nouveau si les prix de l'énergie continuent à flamber.
C'est quelque chose qui devrait sans doute être de plus en plus prégnant dans de nombreuses entreprises.
Tout à fait.
Et chez de nombreux ménages, tout le monde tout essaye de trouver des formules pour réduire un peu sa facture.
Délestage, réduction de la consommation, et puis simplement de la conscientisation de tout un chacun. Quand on quitte le bureau, on éteint la lumière, on éteint son PC. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, mais on travaille également là-dessus. Je voudrais aussi signaler quand même, puisqu'on parle de projets qui sont exécutés ou en cours d'exécution, une initiative un petit peu particulière qu'on a eue avec la commune de Braine-l'Alleud et qui consiste en fait en la création d'un parc photovoltaïque. Et c'est un parc photovoltaïque de grosse importance, hein, puisqu'on parle de 32 000 panneaux solaires. Ce parc photovoltaïque est donc construit par la commune, mais sera loué par UCB. Et fournira à peu près 25% de notre consommation électrique. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple de partenariat public-privé, assez créatif dans son approche, et qu'on mène avec succès avec
la commune. À quel horizon
Alors, ce parc photovoltaïque, il devrait être opérationnel pour l'été 2023. Ah. Et donc, il est en cours de construction et tous les signaux sont ouverts.
Alors, autre question, c'était… un petit conseil culture pour nos téléspectateurs pendant ce week-end. Là, le conseil culture, ce sera de la lecture.
Oui, tout à fait. Je vais revenir sur mes vacances et ma lecture de vacances. Et c'est le dernier ouvrage, en fait, de Ken Follett, « Pour rien au monde ». Alors, Ken Follett est connu pour ses romans historiques, qui sont d'ailleurs excellents. Et ici, il a suivi une approche un petit peu différente, qui est d'appliquer les leçons du passé à un futur proche, en tenant compte évidemment de la puissance des technologies d'aujourd'hui, qui fait que les conséquences de ce qu'on aurait pu vivre il y a quelques années sont tout à fait différentes aujourd'hui. Donc c'est une lecture assez interpellante, qui fait réfléchir, qui nous fait nous poser beaucoup de questions, mais bon, je pense qu'au bout du compte, on doit rester confiant dans l'avenir de l'humanité.
Globalement, c'est quelque chose que c'est un besoin pour vous de vous évader, de vous nourrir avec des objets culturels, que ce soit des livres ou de la musique.
Oui, donc la lecture, la musique. Je n'en joue pas, mais j'aime écouter de la musique et avec des goûts assez éclectiques. De temps en temps, un petit musée. Donc, oui.
Ça fait partie d'un équilibre de vie.
Tout à fait, oui.
Eh bien, Monsieur Folli, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et j'espère que ça a peut-être contribué à rassurer pas mal de monde parmi vous, chers téléspectateurs, puisqu'il y a quand même des entreprises qui investissent jusqu'à 1 milliard d'euros en Wallonie. Bon week-end tout le monde.